soirée, bienvenue 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les opérations de vote sont en cours au Gabon. Les électeurs sont appelés à désigner leur président. Depuis ce matin, on vote dans le calme à Libreville, la capitale. Reportage à suivre. Le sultanat d'Oman accueille la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien en présence de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient et du ministre iranien des Affaires étrangères. Les Iraniens ont promis qu'ils donneraient toutes leurs chances à la diplomatie. Dans ce journal aussi, aux États-Unis, un condamné à la peine capitale exécuté par un peloton. Et en Colombie, les habitants de Bogota ne sont plus rationnés en eau. Bonne nouvelle pour quelques 8 millions de personnes. Depuis ce matin au Gabon, les électeurs donc votent pour désigner leur président. Quelques 920 000 électeurs qui ont jusqu'à ce soir pour se rendre dans l'un des 3 000 bureaux de vote. 8 candidats sont en lice, parmi lesquels Brice Clotaire-Oligui Nguema, le nouvel homme fort du pays qui s'est prédit une victoire historique. Ce matin à Libreville, les électeurs rencontrés par François Mazet, notre envoyé spécial, étaient ravis de la sérénité dans laquelle se déroule le vote, au contraire des élections précédentes qui avaient été marquées par de fortes tensions.
Alors prévu, tout était prêt pour le vote, mais il a encore fallu une heure d'attente aux premiers électeurs, le temps que les assesseurs marquent tous les bulletins pour les authentifier. Pas de quoi décourager Irène, une retraitée.
Vu mon âge, c'est la première fois que je viens voter avec sérénité, il y a la paix, il y a la joie, il n'y a pas de bousculade, ça va.
Teddy vient de déposer son bulletin dans l'urne et il est satisfait du déroulement.
Le climat il a apaisé, n'est-ce pas ? Et nous sommes très fiers de l'organisation parce que les années précédentes, il n'y avait pas cette organisation-là. Et là, vraiment, c'est satisfait. Ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas ? Vraiment, c'est une réussite.
Ursus a une priorité, la lutte contre le chômage des jeunes. Il espère que cette élection marquera un tournant pour le Gabon.
Alors, vous voyez qu'il est 9h et tout se passe bien. Il y a de l'engagement, il y a de l'engouement. Les Gabonais veulent s'exprimer sur ce vote capital. Les gens sont apaisés, les gens ont hâte d'exprimer leur choix.
Certains bureaux affichaient une forte affluence dès la matinée, d'autres s'attendent au flux de fin de journée. La clôture peut être repoussée jusqu'à 20h si nécessaire. Plusieurs voix critiques de la transition ont présenté le vote blanc ou l'abstention comme la seule alternative. La participation est donc un enjeu majeur de cette élection. François Mazet, Libreville, RFI.
Autre grand titre dans l'actualité de ce samedi, le nucléaire iranien. Le sultanat d'Oman accueille depuis ce matin des pourparlers en présence de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient et du ministre iranien des Affaires étrangères. Négociations à huis clos entre deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. Les États-Unis cherchent à mettre fin au programme de l'Iran qu'ils accusent de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce que Téhéran a toujours démenti. Ces discussions sont bien évidemment suivies de près en Israël. Avec le retour au pouvoir de Donald Trump à Tel Aviv, comptait pouvoir frapper militairement les sites d'enrichissement d'uranium de son ennemi. Cette perspective s'est réduite au fil des mois, semant le doute sur la suite des événements. Correspondance de notre envoyé spécial Abla Junaidi.
Plusieurs responsables israéliens ont exprimé leurs doutes dans la presse locale. La fenêtre d'opportunité pour frapper le régime iranien est là, selon eux, ses alliés dans la région Hezbollah et Hamas affaiblis, son système antimissile S-300 détruit par Israël en novembre dernier. Et pourtant, les mois passent et Donald Trump tarde à donner son feu vert à une intervention. Du point de vue israélien, les positions du président américain ne disent rien de ses intentions réelles. Donald Trump oscille entre la promesse d'un enfer à Téhéran et la volonté d'accentuer simplement la pression sur le régime pour obtenir un accord. Mais quel genre d'accord ? Là aussi, Tel Aviv doute. Si Donald Trump devait favoriser un accord à peine meilleur que celui de 2015, simplement pour proclamer une victoire symbolique, mais sans répondre à la menace nucléaire de Téhéran, ce ne serait pas satisfaisant pour le gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou imagine à la rigueur un scénario à la libyenne. Après l'invasion américaine de l'Irak en 2003, la Libye a complètement renoncé à son programme d'armes nucléaires pour éviter la menace de la force militaire américaine, considérant que la suite a été fatale aux dirigeants libyens. Cette issue n'est pas envisagée par Téhéran. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
RFI, Radio France Internationale.
Une bouffée d'oxygène pour l'économie argentine. Elle reçoit 42 milliards de dollars de prêts, dont 20 milliards venant du Fonds monétaire international. Un soutien présenté par la Banque mondiale comme un vote de confiance important accordé au gouvernement. Grâce à lui, grâce à ce prêt, le gouvernement du président Milei compte reconstituer les réserves de la Banque centrale et surtout relancer la croissance. Aux États-Unis, un condamné à la peine capitale mis à mort par un peloton d'exécution. Cela s'est passé hier en Caroline du Sud, l'un des États qui n'ont pas aboli la peine de mort. Michael Mahdi, c'est son nom, a été exécuté pour avoir tué un policier en 2004. Julien Chavanne, c'est seulement la deuxième fois que ce mode d'exécution est utilisé aux États-Unis depuis près de 15 ans.
Et c'est le condamné lui-même qui a préféré les balles à la chaise électrique ou à l'injection létale. En Caroline du Sud, c'est le prisonnier qui choisit. L'exécution a donc eu lieu vendredi soir à la prison de Columbia, la capitale fédérale. Michael Mahdi, 42 ans, était attaché à une chaise métallique dans une pièce à un peu plus de 4 mètres d'un mur percé d'une ouverture rectangulaire. Derrière ce mur, il y avait le peloton d'exécution composé de 3 personnes. Son avocat dénonce un acte effroyable qui n'a pas sa place dans une société civilisée. Début mars, un autre condamné à mort avait lui aussi choisi le peloton d'exécution. Une majorité d'Américains reste favorable à la peine capitale. Et outre la Caroline du Sud, 4 États autorisent aussi le recours à ces pelotons d'exécution. Depuis le début de l'année, 12 exécutions ont eu lieu aux États-Unis, dont 2 par inhalation d'azote, une méthode controversée utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama.
Julien Chavanne, la Russie doit se bouger, déclare Donald Trump. Pour le président américain, il faut que Moscou se bouge pour trouver une issue au conflit en Ukraine. Il l'a dit sur son réseau Truth Social au moment où Vladimir Poutine rencontrait son émissaire spécial. Les tractations diplomatiques se prolongent sans concession particulière du gouvernement russe. Kiev et certains de ses soutiens le soupçonnent de faire traîner à dessein les discussions. Alors que les États-Unis se désengagent, comment permettre à l'Europe de financer ses efforts de réarmement sans avoir à s'endetter trop lourdement? La question est au centre d'une réunion aujourd'hui à Bruxelles en présence des ministre des Finances de l'Union européenne. Un mécanisme européen de défense verrait le jour, un organisme supranational. Il centraliserait l'achat d'armes et les mettrait à disposition des pays participants en échange d'une contribution. Bonne nouvelle pour les habitants de Bogota, la capitale de la Colombie. Ils sont 8 millions désormais et ils ne sont plus rationnés en eau. Depuis un an, Jeanne Richard, un épisode de sécheresse provoquait des coupures tournantes par quartier mises en place pour limiter la consommation.
Oui, c'est l'un des pays les plus pluvieux au monde et les nuages qui se forment au-dessus de la forêt amazonienne abreuvent d'habitude des réservoirs naturels sur les hauteurs de Bogota où des plantes éponges permettent de stocker l'eau en grande quantité. Mais la destruction de la forêt et le phénomène El Niño ont entraîné une sécheresse en 2023 qui s'est prolongée, à laquelle s'ajoute le manque de préparation des autorités. Résultat, des réserves en eau au plus bas, il y a un an tout juste, des coupures tournantes ont été instaurées. Depuis, chaque foyer de la ville est privé d'eau pendant 24 heures tous les 9 jours. Une mesure enfin levée ce samedi, le maire annonce de nouvelles perspectives hydrologiques qui permettront de recharger ces réservoirs naturels. Il a reconnu la crise la plus complexe que Bogota ait eu à affronter en termes de pénurie d'eau. Une crise qui a révélé aussi les problèmes de gestion qui durent depuis des années, selon plusieurs experts. Le réseau de canalisation est plein de fuites et les prélèvements trop importants.
Jeanne Richard du service environnement, merci à vous. En France, l'actualité du jour est dominée par des manifestations pour défendre la démocratie et l'état de droit. Une quarantaine de rassemblements sont prévus à travers le pays ce samedi à l'appel de nombreuses organisations de la société civile. Entre autres, SOS Racisme, France d'Air d'Asile, la Ligue des droits de l'homme, Oxfam, Greenpeace ou bien encore la CGT et Solidaire. Les manifestants battent le pavé après les attaques contre la justice qui ont suivi la condamnation de plusieurs responsables du Rassemblement National, dont Marine Le Pen. Les sports enfin en vedette ce week-end, le marathon de Paris qui sera disputé demain dimanche, disputé en même temps que la grande classique cycliste Paris-Roubaix. Aujourd'hui, ce sont les coureuses qui s'élancent sur Paris-Roubaix avec presque 30 km de pavé. La course est aussi un enfer du Nord pour les femmes, même si le temps doit rester sec. Un mot aussi de tennis au programme aujourd'hui au tournoi de Monte-Carlo, les demi-finales. Carlos Alcaraz affronte son compatriote Alessandro Davidovic et l'Australien Alex de Minaur est opposé à l'Italien Lorenzo Musetti. Avant de conclure, je vous rappelle l'une des principales informations du jour. Le sultanat d'Oman qui accueille la reprise des pourparlers sur le nucléaire de l'Iran en présence de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient et du ministre iranien des Affaires étrangères. Les Iraniens ont promis qu'ils donneraient à Oman toutes les chances à la diplomatie. Voilà pour le journal. Le prochain rendez-vous avec Charlotte Hydrac dans un peu moins d'une heure. Tout de suite, Carrefour du Maghreb en compagnie de Juliette Rangeval.